Donc la nature a-t-elle des droits, Hegel et les présuppositions d'un cadre juridique rationnel. Le droit hegelien, sans entrer dans toutes les nuances du terme dont Jean-François Kervégan a présenté ça un peu clairement hier, eh bien, est lié à l'esprit, et plus précisément à l'esprit objectif. C'est l'esprit qui se pose, qui se donne effectivité dans le monde. En ce sens, il n'y a pas de droit de la nature. Mais bon, on peut quand même un peu aller plus loin et un peu nuancer les choses, et c'est tout l'intérêt, enfin, c'est en tout cas le but que je me suis donné dans cet exposé. Donc, Hegel est assez clair quand il lit le droit à l'esprit. On peut pour cela citer le paragraphe 4 des principes de la philosophie du droit. Le terrain du droit est de manière générale le spirituel, et sa situation et son point de départ plus précis sont la volonté qui est libre, si bien que la liberté constitue sa substance et sa destination, et que le système du droit est le règne de la liberté effectuée, le monde de l'esprit produit à partir de lui-même en tant que seconde nature. Donc, dans la mesure où la nature prise en tant que telle n'est pas libre, il n'y a pas nommément de droit de la nature chez Hegel. La nature n'est pas sujet de droit, il n'y a donc pas de contrat naturel, notion que l'on peut trouver chez certains auteurs comme Michel Serres. Ce n'est qu'indirectement ou par procuration que la nature pourrait avoir des droits dans une perspective hegelienne. Elle ne peut donc pas être directement porteuse de droits et encore moins agir comme un sujet de droit. Les lois du droit et les lois de la nature sont à distinguer, comme Hegel le montre dans l'addition à la préface des principes de la philosophie du droit. Donc, je cite rapidement une partie de cette addition. Pour savoir ce qu'est une loi de la nature, il faut que nous ayons une connaissance de la nature, car ces lois sont exemptes d'erreurs et ce sont seulement les représentations que nous en avons qui peuvent être fausses. La mesure de ces lois est en dehors de nous. Je passe un petit passage. Les lois du droit sont quelque chose de posé, quelque chose qui provient de l'homme. Donc on voit bien là le contraste entre la nature et l'esprit. Donc dans l'esprit, il y aurait la liberté, le droit proviendrait de l'homme et donc serait quelque chose d'intrinsèquement ancré dans l'esprit. Alors, je vais vous passer ici la seconde vue. Donc là, vous voyez un terril à Charleroi, parce qu'en fait, je suis animateur philo à Charleroi, donc une ville en Belgique marquée par le passé minier. Et donc, il y a toute une série de terrils. Les terrils, bon, c'est tous les déchets un peu de la mine du charbon. Et ces terrils qui étaient tout noirs au début deviennent progressivement tout verts. Et donc, on entend souvent parler que la nature reprend ses droits. Mais c'est là une façon métaphorique de parler. La nature n'est pas un sujet qui puisse reprendre quelque chose, c'est la base qui organise les organismes vivants et les rapports qu'ils entretiennent entre eux. La nature est quelque chose qui, pour l'homme, est posé et non quelque chose qui se pose librement. Elle est le règne de la nécessité de la contingence et non la figuration de la liberté. Pour que la nature ait de manière intrinsèque des droits, il faudrait que la nature soit personnifiée, comme c'est le cas dans les allégories, où on présente la Terre comme un être vivant, ce que l'on retrouve notamment dans les invocations concernant notre mère la Terre, ou encore dans certaines formes de l'hypothèse Gaïa. Mais si la Terre dessine un équilibre homéostatique, elle n'est pas un organisme vivant pour autant, et encore moins une personne à part entière. Elle n'est que métaphoriquement une personne, elle n'est que métaphoriquement porteuse de droits, elle ne reçoit des droits que du fait que l'on transporte la notion de droit hors de son lieu d'origine. Sans recourir à une nature allégorique perçue comme personne, certains feront porter le curseur du droit sur le vivant et non sur l'homme seul. Ils élargiraient de la sorte le domaine d'applicabilité des droits, tous les vivants auraient des droits, mais on peut se poser toute une série de questions par rapport à ça. Qui fera respecter ses droits? Il me semble que ce serait l'homme. Qui formulera ses droits? Il me semble de nouveau que ce serait l'homme. Qui pourra assigner quelqu'un en justice si les droits ne sont pas respectés? Il me semble que ce serait encore l'homme. On a vu dans certains mouvements écologistes, comme l'ensemble zoologique de libération de la nature, des animaux qui faisaient un procès aux humains pour avoir, en quelque sorte, abîmé l'environnement. Or, comme on peut le voir sur cette image, ces animaux qui font un procès aux humains sont en fait des hommes. Derrière le costume d'animal, c'est l'homme qui se cache. Et donc, quand on parle d'animaux qui pourraient faire un procès à l'homme, c'est en fait l'homme qui fait un procès assez semblable. On pourra toutefois ici me rétorquer que l'enfant ne peut pas formuler ses droits ni assigner de son propre chef quelqu'un en justice, mais c'est ici qu'intervient une notion fondamentale du droit hégélien. Le droit hégélien ne se réduit pas au droit abstrait, au droit de l'individu pris comme personne. Certes, il importe de pouvoir défendre les droits de l'individu, mais ces droits ne sont pas l'horizon du rationnel qui fonde le concept de droit. Ils n'en sont qu'une abstraction. Le droit, en son sens fort, n'est pas le droit de l'individu privé, mais un droit rationnel singularisé à travers un individu, à travers une pluralité d'individus. Or, cet ancrage de l'individu dans la société des êtres humains, des êtres rationnels, est à comprendre à travers les institutions de la vie éthique. Celles-ci peuvent se lire comme des médiations entre l'individu et le tout social. Cette médiation entre l'individu et le tout s'exprime dans le cadre du droit, dans la forme d'une réciprocité, dont on a déjà parlé, notamment Louis Carré, entre les droits et les devoirs. L'enfant a ainsi des droits dans la mesure où il a des devoirs, lesquels sont définis par son inscription dans l'institution de la famille, qui agit comme une sphère de médiation entre l'individu et un tout ici encore proximal. Je pense que cette réciprocité entre droit et devoir est intéressante pour penser les conditions d'une éventuelle extension de la sphère juridique à de nouveaux termes. Hegel, à la fin de la remarque du paragraphe 486 de l'Encyclopédie, écrit: Ce qui vaut de façon essentielle est que celui qui n'a pas de droit n'a pas de devoir et réciproquement. Cette réciprocité des droits et des devoirs exprime la difficulté à faire de la nature en général et des vivants en particulier des porteurs de droits. Dira-t-on que la vache a des devoirs? Dira-t-on que la nature a des devoirs? Cela me paraît un peu compliqué. Si la nature n'a ni droit ni devoir, la voie d'une juridicisation de l'écologie, qui lui donnerait une certaine efficacité, est-elle pour autant à rejeter? Je ne pense pas. On peut avoir une appréhension indirecte des droits de la nature qui les fait dériver des droits de l'homme. Valérie Cabanès, dans son livre Pour en finir avec l'écocide, un autre droit pour la nature, montre ainsi qu'un environnement préservé, une gestion durable de la nature, peut se lire comme le transcendantal des droits de l'homme. Préserver la nature serait une condition de possibilité du droit en général. C'est parce que l'homme est lié à la nature qu'il se doit de respecter la nature. En d'autres termes, en respectant la nature, c'est le respect de l'homme et de ses conditions de vie que l'on chercherait à valider. Il y aurait alors un droit indirect de la nature lié à la dépendance que les droits humains ont avec la nature. Je me propose de montrer dans ce qui suit comment une lecture hégélienne pourrait nous aider à penser ce que Dominique Bourg appelle un droit de la nature par procuration. Ce droit par procuration s'oppose à l'écologie profonde, ce que Arne Naas appelle aussi écosophie, qui attribue à la nature et au vivant une valeur intrinsèque sans d'ailleurs penser les conditions de possibilité et les conditions juridiques d'un tel décentrement. Dans un premier point, je montrerai comment penser un droit indirect de la nature à partir du cadre hégélien. J'insisterai également sur les conditions de possibilité d'une telle lecture de Hegel. À cette idée correspond l'idée que la nature est en quelque sorte la maison de l'homme. Dans le second point, je montrerai comment penser un devoir indirect de la nature à partir de la distinction entre besoin naturel et besoin culturel chez Hegel. Le devoir de l'homme envers la nature serait de se porter responsable de cette nature qui le porte. Alors donc ici, j'ai mis deux images un peu pour symboliser cette idée. Donc, il y aurait d'un côté l'idée d'une nature qui est comme la maison de l'homme, qui porte l'homme, et de l'autre côté, l'homme qui se porterait responsable de cette nature. En définitive, le droit de la nature se situerait en quelque sorte entre Atlas et Gaïa. L'homme porterait la terre sur ses épaules, il s'en porterait responsable et céderait du droit pour donner un caractère contraignant à cette responsabilité, mais il ne le ferait que parce qu'il reconnaîtrait en cette terre son habitat, son foyer. Le droit délégué à la terre serait le moyen pour l'homme de stabiliser l'interface de son retour à soi. Alors, au niveau méthodologique, ma perspective consiste à lire le rapport de l'esprit à la nature à partir de ce canevas général du concept de droit hégélien, un droit lié à l'esprit, un droit qui consacre la réciprocité entre droit et devoir ou obligation. Cette lecture entend alors faire dialoguer Hegel avec les débats concernant une approche juridique du problème écologique. Pour traduire Hegel devant ses préoccupations et en tirer des éléments significatifs, il nous faudra toutefois opérer une lecture non métaphysique de la philosophie de la nature hégélienne, faisant la part des choses entre ce qui est vivant et ce qui est mort, dans cette philosophie. Une fois cette lecture opérée, je conclurai en montrant l'intérêt et les limites de cette lecture non métaphysique des rapports de la nature et de l'esprit à partir du concept hégélien de droit. Donc, ça, c'est pour résumer un peu les principes principaux, disons, du droit. C'est l'esprit qui est le cadre du droit hégélien. Alors, on peut distinguer les lois de la nature qui sont extérieures aux humains et le droit positif qui est posé par les individus rationnels. Enfin, il y a cette réciprocité des droits et de devoirs. Alors, en ce qui concerne donc le plan de mon exposé, donc, dans un premier temps, je vais essayer de théoriser une approche indirecte du droit de la nature chez Hegel. On verra qu'elle va se baser sur l'idée que la nature est comme la présupposition de l'esprit. On verra dans un second temps que même si on peut tirer d'une certaine façon un potentiel environnementaliste chez Hegel, le problème de l'écologie ne se pose pas vraiment pour Hegel pour toute une série de raisons. Et le fait que ce problème ne se pose pas vraiment, le potentiel va rester non développé et donc toute une série de questions majeures pour l'environnement ne trouveront pas vraiment d'éléments dans la philosophie hegélienne. Dans un deuxième temps, je ferai une approche indirecte des devoirs envers la nature à partir de Hegel, à partir de la distinction entre besoins naturels et besoins culturels. Enfin, je conclurai. Voilà. Donc, premier point. Donc, une approche indirecte de la nature, piste pour un environnementalisme d'inspiration hegélienne. Hegel ne voit pas la nature comme simplement en opposition à l'homme. Certes, on peut opposer la nature et la culture, mais il y a de la subjectivité dans la nature et du naturel en l'homme. La nature est alors présupposée par l'esprit. La nature est alors appréhendée à travers une perspective spéculative qui consiste non pas à affirmer ce qu'est le monde, mais ce que le monde est pour celui qui le pose. En fait, quand Hegel écrit que la nature est la présupposition de l'esprit, il veut dire que la nature se laisse lire comme quelque chose dans lequel l'esprit peut se connaître et se reconnaître. L'homme apprend à se comprendre en étudiant la nature. En bref, la nature ne présente pas une altérité radicale à l'esprit, elle contient ce que Jean-François Fillon nomme une rationalité inconsciente. Elle est un moment dans lequel l'homme peut se constituer comme être d'esprit. La nature peut être alors vue comme un terrain de jeu pour que l'homme puisse se connaître en tant qu'esprit, se faire advenir en tant qu'esprit. Elle est le lieu du poète qui en fera le prétexte à des analogies et des métaphores diverses. Donc évidemment, à l'époque de Hegel, les romantiques s'en emparent et en font la matrice d'une combinatoire infinie. Hegel se refuse toutefois à en faire un tel usage. D'une part, ce ne sont pas les éléments qui composent la nature qui, combinés de façon atomistique, inspirent l'homme, mais les tendances progressives qui organisent la nature en sa globalité, en un mouvement de subjectivation qui va de la mécanique à l'organisme animal. D'autre part, dans la nature, comme présupposition hegélienne de l'esprit, on n'a pas le côté prospectif de la philosophie romantique. Dans le cadre hegélien, le rapport à la nature relève plus de quelque chose d'introspectif, dans la mesure où ce dont il est question, c'est du fond naturel de l'esprit et non de l'horizon de son actualisation. Or, ce naturel sur lequel l'esprit fait fond est organisé par l'esprit, de sorte que l'esprit ne présuppose le naturel en lui que pour autant qu'il le pose de telle sorte qu'il puisse s'y reconnaître. D'une certaine façon, la nature est ainsi instrumentalisée comme moyen terme que l'esprit se donne à lui-même. L'esprit se réconcilie avec la nature en tant qu'il en pense la nature. Il est, en tant que révélation, devenir de la nature. L'esprit est, je cite, pose la nature à partir de lui-même comme son monde, un posé qui, en tant que réflexion, est en même temps présupposé du monde comme nature autonome. Fin de la citation, paragraphe 384. Mais ce monde qu'il pose et dont il fait la présupposition de sa compréhension n'est pas transparent. La nature comme moyen terme peut faire écran. L'homme alors ne se retrouve plus. Il ne se reconnaît plus à travers le naturel qui s'insinue dans son rapport à lui-même. C'est là le thème de la folie chez Hegel. Les risques intrinsèques liés au naturel ne doivent toutefois pas nous en détourner. En effet, que se passerait-il si le naturel disparaissait? L'homme serait d'emblée face à lui-même. Il serait ce qu'il a à être, en bref, sans nature, l'homme serait dénaturé, il ne se définirait plus comme processus d'appropriation à partir d'une extériorité. Dire que l'esprit présuppose la nature, c'est dire que sans la nature, l'esprit est dénaturé. Il y a donc là, en germe, les éléments pour une philosophie de l'environnement chez Hegel, mais ces éléments tiennent dans le cadre d'une anthropologie, voire d'une anthropodicée. La nature n'est pas le terme d'une relation, mais le lieu d'une relation de l'homme à lui-même. Elle n'est ni un objet extérieur qui me fait face, ni un autre sujet avec lequel je dialogue. Elle est un troisième terme dans la relation que j'entretiens à moi-même et aux autres, en tant que nous sommes l'expression d'une même humanité. La nature n'est pas un interlocuteur valable, elle n'est pas animée, comme un certain romantisme le croit, elle n'est pas pour autant un simple objet. Elle se situe dans cet entre-deux, défini par la logique spéculative. Comme l'écrit Jean-Marie Besse, « Entre moi et moi-même, il y a la terre. Il suit de cela que la terre et la nature qu'elle compose doivent être préservées pour que ne soit pas compromis mon rapport à moi-même. » On peut dire que le problème écologique, s'il se posait, pour Hegel, se crèverait chez lui dans cette présupposition de la nature par l'esprit. Dans ce rapport dialectique entre l'esprit et la nature, l'on ne peut avoir l'un sans l'autre. Cette réciprocité est confirmée à la fin de l'encyclopédie dans les syllogismes qui la clôturent. L'intérêt de ces syllogismes conclusifs est de briser l'apparente linéarité de la structure encyclopédistique. On pourrait croire que la logique se fait esprit en passant par la nature, mais en faisant jouer tour à tour à la logique et à l'esprit le rôle de moyen terme, Hegel nous aide à comprendre la plasticité des termes qui composent l'exposé. Dans cette plasticité, il est question du statut de la présupposition, qui apparaît comme le fait que l'esprit n'a de regard rétrospectif que sur son propre savoir. C'est dès lors l'esprit qui est le principe et l'aboutissement de la philosophie de la nature. Derrière la logique ou la nature, c'est ainsi l'esprit qui se dessine. La logique de la philosophie de la nature constitue ainsi l'appréhension de la nature selon sa possibilité spirituelle. Cette logique met en évidence une puissance de la nature tout autant qu'une impuissance de celle-ci à tenir ferme cette détermination, c'est-à-dire à suivre le mouvement du concept. Il va de soi que ce n'est pas les multiples formes de l'impuissance de la nature qui retiennent l'attention de Hegel, mais le développement du potentiel naturel en vue d'une actualisation de l'esprit. Il y a dès lors une lecture non exhaustive de la nature qui découle de son appréhension comme présupposition. Toute rationalisation de la nature, qu'elle soit opérée dans le but de l'exploiter ou de la préserver, se fait nécessairement à partir du point de vue de l'esprit dans une perspective hegelienne. Deuxième point, l'inaltérabilité supposée de la nature et l'absence de facto d'une philosophie de l'écologie chez Hegel. À partir du moment où c'est du point de vue de l'esprit, c'est-à-dire de l'humanité, de l'homme, que la nature est envisagée, il faudra attendre que les actions de l'homme sur la nature aient des conséquences négatives sur les hommes eux-mêmes pour que le rapport à la nature devienne un problème humain. À l'époque de Hegel, la nature apparaît tellement peu impactée dans sa logique par l'homme, que Hegel la croit immuable. Au rang des éléments datés de la philosophie hégélienne figure le fait que la nature est pour lui le règne de la répétition. Alors je vous cite cette phrase bien connue de Hegel, issue d'un cours de philosophie, sur la philosophie de l'histoire. Dans la nature, les changements, quelle qu'en soit la diversité infinie, montrent un cycle qui toujours se répète. Rien de nouveau sous le soleil, et en ce sens, le jeu polymorphe des configurations naturelles n'est pas exempt de monotonie. Il ne se produit du nouveau que dans les changements qui ont lieu sur le sol de l'esprit. Fin de la citation. On peut s'étonner de ce fixisme hegélien. Certes, Darwin ne publiera L'origine des espèces qu'en 1859, donc je ne suis pas très bon en maths, mais 30 ans à peu près après la mort de Hegel. Et ces théories de Darwin ne seront popularisées en Allemagne qu'avec Haeckel, donc encore un peu plus tard. Il reste cependant qu'un certain évolutionnisme était déjà présent, notamment avec Treviranus et Lamarck, que Hegel cite pourtant. On peut sans doute voir là l'expression d'un double préjugé, un préjugé du sens commun et un préjugé métaphysique. Au niveau de la façon dont la nature se phénoménalise, pour le sens commun, la fiction d'une répétition à l'identique de la nature semble quelque chose d'observable à travers les différents cycles naturels. À l'échelle du temps humain, la répétition semble l'emporter sur l'évolution dans la nature. Augustin Berque considère ainsi que la coévolution de l'homme et la nature a quelque chose d'asymétrique, ce qui conduit l'esprit à se penser comme un développement continu par rapport à des cycles qui se répètent quasi à l'identique. En d'autres mots, l'humain évoluerait plus vite que son milieu. Il y aurait dans l'évolution naturelle une force d'inertie qui fait que si on la compare au développement de l'esprit humain, elle pourrait s'assimiler à un fondement stable. La stabilité de la nature serait alors rendue comme une répétition de cycles. Mais cette observation, qui pourrait être l'observation que Hegel fait, est connotée chez Hegel de nuances péjoratives, de sorte qu'il semblerait bien que la conception erronée d'une nature comme répétition ressorte aussi à un préjugé qui ne relève pas que du sens commun, mais un a priori métaphysique selon lequel l'évolution ne pourrait que relever de l'esprit. Soucieux de préserver les prérogatives de la culture humaine, Hegel considérerait qu'il n'y a pas d'évolution au sein de la nature. On voit que la théorie hegélienne d'une nature comme présupposition cède parfois le pas à une nature comme opposée à l'esprit. S'il serait dommage de rejeter en bloc toute la philosophie hegélienne qui se rapporte à la nature, on voit ici qu'on ne peut donc suivre Hegel dans tous les détails. Il importe de développer l'impact de cette conception selon laquelle la nature semble inaltérable dans sa globalité pour expliquer le fait que bien que des éléments favorables à une pensée environnementaliste soient présents chez Hegel, une telle pensée n'a pu voir le jour dans son système. Pour Hegel, si l'homme module la nature par la technique et le symbole, il ne va pas jusqu'à en subvertir la logique de manière irréversible. En d'autres termes, si l'homme se libère de la nature, il ne la libère pas d'elle-même et fait de la fixité ennuyeuse de la nature la base de tout travail spiritualisant. D'une certaine façon, si emprise moderne de l'homme sur la nature il y a, elle reste superficielle. Le désir de l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature ne remet pas en cause le mot de Bacon, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. L'homme se sert de la nature, il l'aménage, la module à ses fins, mais ne la modifie pas, ou du moins s'il le fait, c'est en surface et non en profondeur. À l'époque de Hegel, la révolution industrielle s'est certes déjà enclenchée, mais on n'en voit pas encore les marques subséquentes à l'échelle de la planète. Les déprédations semblent encore locales. Il y a certes déjà des scientifiques de renom comme Lamarck qui donnent l'alerte, mais ceux-ci ne sont guère entendus. Il faudra attendre les années 70 et le rapport Meadows, une conscience massive de l'écologie commence à émerger. Avec cette appréhension du point de vue de l'esprit du problème de l'environnement, le problème écologique ne peut devenir central qu'une fois que la crise écologique devient globale et menace l'humanité dans son ensemble. C'est seulement donc dans les années 70 que cette prise de conscience apparaît massivement et que consécutivement des philosophes comme Hans Jonas propose une tentative approfondie de fonder une écologie sur une philosophie issue de l'humanisme des Lumières, essentiellement Kant. En conclusion, donc, de ce point, le présupposé d'un humanisme à vocation universaliste et le contexte d'une emprise apparemment locale et superficielle sur la nature font qu'une conscience environnementaliste forte pouvait difficilement voir le jour chez Hegel. On ne s'étonnera donc pas que Hegel ne développe pas véritablement de philosophie écologique ou écologiste. Alors ça va, le fait que donc qu'il y ait un potentiel environnementaliste chez Hegel du fait que l'esprit présuppose la nature, mais que ce potentiel n'est pas développé parce que le problème écologique ne se pose pas, puisque au niveau de l'humain, la déprétation de la nature ne semble pas encore problématique à cette époque, eh bien cela va faire que Hegel ne va pas véritablement suffisamment développer sa philosophie pour qu'elle nous soit utile à développer un environnementalisme aujourd'hui. Dans un premier temps, on s'est attaché à montrer que le lieu d'une actualisation environnementaliste de Hegel se situerait dans l'idée que l'esprit trouvait sa présupposition dans la nature. On a vu dans le second point que cette possible écologie n'avait pu voir le jour du fait que le problème d'une nature impactée dans sa logique même par l'activité humaine n'était pas concevable du fait d'une dégradation moins systématique de l'environnement et du fait d'un préjugé selon lequel la nature serait le règne de l'immuable. Il nous reste ici à évaluer certaines limites d'une écologie humaniste qui se réclamerait du point de vue hegélien. Donc, en imaginant que le problème écologique se pose, donc en imaginant que Hegel soit dans les conditions qui sont là, les nôtres, eh bien, sa philosophie, le potentiel environnementaliste de sa philosophie serait malgré tout limité. Cette limite tient à une appréhension anthropocentrée de l'environnement, qui ne permet pas de rendre compte de la diversité dans la nature. Elle tient par ailleurs au fait que Hegel, n'ayant développé une éthique environnementale, les indications que l'on peut en tirer restent fort lacunaires et doivent être complétées dans la pratique. Une appréhension de la nature envisagée comme milieu de l'homme ne conduit pas à prendre en considération la diversité des milieux animaux et végétaux. Si la nature n'a de valeur que parce qu'elle est rapportée à l'homme, n'en demeure pas moins qu'elle n'existe pas que par rapport à l'homme. En faisant l'impasse sur le problème de la diversité des milieux qui composent l'environnement, une philosophie environnementaliste de type hegélien risque de manquer la complexité de l'environnement et ne pas pouvoir prendre des mesures de précaution adaptées. En bref, si l'homme se rapporte à lui-même par le prisme de l'environnement dont il fait sa présupposition, cet environnement est un écosystème complexe de relations entre différentes espèces. Sans connaître ce système, on se méprend sur la nature de la nature, de sorte que faire de la nature sa présupposition sans pouvoir entrer dans la composition de celle-ci reste une façon abstraite de procéder. Le problème est que la nature comme milieu constitutif de l'humain n'est pas vue par Hegel comme un milieu de milieux au pluriel. Il importe peu pour Hegel d'être exhaustif dans sa philosophie de la nature. Il le dit clairement au sujet des Véroniques et des perroquets. La relativité des milieux que l'on retrouvera plus tard chez Jacob von Uexküll est à penser dans les limites de l'exposé d'une sorte d'anthropodicée qui prend la forme d'une complexion croissante de la nature. Ce n'est donc pas la diversité des espèces qui contribue, ainsi que Elias Canetti le suggère, à la richesse de l'imaginaire humain qui est à défendre, mais l'idée même d'une altérité dans laquelle l'homme puisse faire l'épreuve de sa contingence et par là motiver le processus d'appropriation de lui-même par lequel il compose l'esprit. Une sauvegarde de la nature chez Hegel ne peut donc revêtir qu'une idée très générale. Il manque en particulier l'idée que la biodiversité constitue une valeur en soi. La diversité n'est pour Hegel que l'impuissance du concept à tenir ensemble une réalité. Elle n'est pas le signe d'une richesse et n'est donc pas en soi à défendre. Faire l'épreuve du monde naturel, c'est en soi faire l'épreuve d'un divers, c'est nous divertir de nous-mêmes. Les liaisons intrinsèques des espèces, les enjeux d'équilibre liés à la chaîne alimentaire, tous les problèmes que l'on verra maintenant actuellement avec les monocultures, etc., tout cela ne peut pas apparaître dans Hegel ne nous donne pas les moyens de faire apparaître ces problèmes dans toute leur complexité. Hegel n'envisage pas la nature comme un système monadologique de milieux, mais comme le moment d'un processus moniste que l'esprit peut reconstruire pour s'y présupposer. Hegel, s'il reconnaît bien une place de moyen terme à la nature, se contente d'une idée de la nature développée du point de vue de l'esprit. Donc voilà pour ce qui serait d'un droit indirect de la nature. On voit qu'il y a des éléments chez Hegel qui permettraient de penser un droit indirect de la nature, mais que le problème écologique ne se posant pas, Hegel ne les a pas développés, et quand bien même il les aurait développés, le fait qu'il n'envisage pas la pluralité des milieux qui composent la nature ferait que philosophie environnementaliste hegélienne il devait y avoir, cette philosophie environnementaliste serait assez limitée. Je vais brièvement présenter l'idée de devoir envers la nature, puis je conclurai l'exposé. Donc, pour ce qui est des devoirs de la nature, donc la nature n'ayant de droit que par procuration humaine, n'a de devoir que par procuration humaine. L'homme s'impose des devoirs envers la nature en tant que c'est à travers cette nature transfigurée par l'esprit qu'il pourra se réaliser. Pour arriver à cette idée de devoir envers la nature, l'homme doit poser ses présuppositions. Pour cela, il faut qu'il soit indépendant. Or, cette indépendance de l'homme est menacée par la sphère de la société civile et son économie. Si l'homme se libère des besoins naturels, il doit aussi se libérer des besoins spirituels pour poser ses présuppositions et prendre la mesure de sa condition humaine. Donc, Hegel distingue les besoins naturels et les besoins culturels. Or, en général, les psychologues, quand ils parlent de besoins naturels, culturels, etc., pose les besoins culturels dans la continuité des besoins naturels. Il y aurait des besoins primaires, besoins physiologiques, etc., besoins de sécurité, et puis les besoins plus culturels viendraient se greffer sur ces besoins et formeraient une pyramide. Il y aurait ainsi une continuité. Chez Hegel, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Les besoins culturels, loin d'être dont la continuité de besoins naturels comme la sécurité vont problématiser ces besoins, puisqu'il va y avoir une démultiplication à l'infini des besoins avec les besoins culturels. Donc, je vous cite le paragraphe 195 des Principes de la philosophie du droit. L'orientation de l'état social vers la multiplication indéterminée et la spécification des besoins, des moyens et des jouissances, orientation qui, tout comme la différence entre besoins naturels et besoins culturels, n'a pas de limite, le luxe, est une augmentation tout aussi infinie de la dépendance et de la détresse. Donc, pris dans un luxe effréné, des besoins illimités, smartphone, 4x4, etc., je ne sais pas quoi citer, l'homme ne serait pas à même d'être à la hauteur de sa liberté. Il créerait lui-même les conditions de sa dépendance. Or, dans le cadre de l'environnementalisme, cette difficulté pointée par Hegel à un niveau plus économique qu'écologique est centrale. Les personnes n'arrivent pas à se restreindre, n'arrivent pas à modérer leurs besoins qui mettent en péril les conditions de vie sur Terre. La formulation d'un droit indirect de la nature reposera dès lors sur la contrainte d'une simplicité volontaire. Or, les besoins infinis font que dans le chef des individus, la volonté concrète d'un respect de la nature entre en concurrence avec les besoins liés à cette seconde nature qu'est la société. En bref, un droit de la nature ne peut être qu'un droit conféré par l'homme à la nature, en tant que la nature constitue une sorte de moyen terme entre l'homme et lui-même. Il s'ensuit qu'un droit de la nature ne peut être formulé que pour autant que l'homme se reconnaisse un devoir envers la nature, que pour autant qu'il ait la volonté de reconnaître dans la nature la base de son naturel. Mais l'homme qui doit se reconnaître un devoir envers la nature est un homme concret, qui ne doit pas seulement être libéré formellement de la nature, mais qui doit être à même de la transfigurer comme vie de l'esprit fondée sur des droits de l'homme qu'il faut organiser politiquement en pensant le fond concret, éthique et naturel sur la base duquel les individus s'inscrivent. Et j'en viens maintenant à la conclusion. Oui, tout ça, c'est les besoins culturels. C'est pas très intéressant. Voilà la conclusion. Les difficultés d'une philosophie d'inspiration hegélienne à rencontrer les enjeux concrets de l'écologie notamment la biodiversité, et la logique d'une implémentation d'un droit de la nature, l'homme restant pris dans des besoins culturels qui le détournent du naturel, peut nous conduire à vouloir opérer un changement de perspective. Plutôt que de rechercher en Hegel une inspiration, Hegel intéressera plus la préhistoire de l'écologie, la généalogie de celle-ci, que l'écologie en tant que telle, à moins que l'on ne modifie sa philosophie dans un sens non métaphysique, mais une telle modification n'aurait guère qu'une valeur globale et indicative. Au niveau de la préhistoire de l'écologie, Hegel, même s'il reste coincé dans les préjugés de son temps, la nature, notamment, est le règne de la répétition, apporte des éléments décisifs dans son idée d'une interdépendance généralisée des éléments que revêt le système. Il situe la nature par rapport à l'esprit et en fait un terme inaliénable de la relation à soi qui caractérise l'esprit. Concrètement, il fait de la nature la présupposition de l'esprit. Si le but de ces leçons sur la philosophie de la nature est clairement intéressé, cela a pour contrepartie que la nature intéresse l'esprit. Alors que l'esprit se pose dans le droit, il se présuppose dans la nature qui constitue une sorte de métadroit difficilement assignable. L'esprit se pose, voire se repose dans la nature qu'il présuppose. Cela apparaît dans les leçons sur la philosophie de la nature, dans les textes de jonction entre les passages introductifs de la philosophie de l'esprit et dans les syllogismes qui clôturent l'encyclopédie. La nature comme moyen de l'esprit, et non seulement comme moyen à disposition de l'esprit, sert de base au point de vue humaniste sur la nature, lequel se concrétise aujourd'hui dans une juridicisation et même une judiciarisation, pensons à l'affaire Climat, des conditions de possibilité des droits de l'homme à travers le programme des Nations Unies pour l'environnement et la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Hegel se montre critique par rapport à la forme individualiste que prennent les droits de l'homme et par rapport à une façon abstraite de considérer l'homme. Pour lui, les droits de l'homme sont un point de départ, mais seulement un point de départ. La pensée abstraite et formelle doit être dépassée. Mais pour peu qu'on replace les droits de l'homme dans l'économie plus concrète de la vie éthique, la Sittlichkeit, et des citoyens qui la composent, il signifie une avancée majeure. En bref, en inscrivant les droits de l'homme dans la dynamique d'un droit de l'esprit, un droit visant l'humanité pris en sa concrétude, Hegel pourrait apparaître comme un jalon dans le développement d'un point de vue humaniste sur l'écologie. Il montrerait qu'il faut développer le point de vue abstrait des droits de l'homme pour le rendre concret, et que c'est à partir de l'humanité concrète que ces droits de l'homme rendraient possible le fait que la nature puisse être défendue. Il reste que pour Hegel, la nature n'est guère faillible, c'est pourquoi elle appartient plus à la préhistoire de l'écologie qu'à l'histoire de l'écologie. Ce n'est qu'à partir d'une lecture non métaphysique de Hegel que l'on peut isoler les éléments qui, une fois articulés autour de l'urgence climatique, pourront nous orienter dans le problème environnementaliste. Le potentiel hegélien est toutefois moins organique que critique. Faute de penser le problème écologique, il n'a pu développer les éléments de sa pensée dans le sens d'un environnementalisme construit. Il a par contre suffisamment développé sa pensée pour nous donner des ressources d'un point de vue spéculatif pour penser ce que ne doit pas être un environnementalisme. Il apparaît ainsi comme une ressource face à toute tentative d'écosophie qui, outrepassant la nécessité du point de vue spéculatif, voudrait considérer la nature en soi en faisant fi de l'humain qui la pense. Hegel est alors plus une ressource pour une réforme de certaines tendances écologistes qu'une préformation de celle-ci. Il peut aider rétrospectivement à affiner certaines relations, à considérer les écologies en place de manière introspective, mais il n'est guère une ressource prospective pour nous aider à nous orienter dans la crise environnementale actuelle.